Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité en partenariat avec le département de la Vienne. Réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora et REC.
Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous départemental hebdomadaire. On se retrouve pour une quinzaine de minutes d'actualité locale. Les travaux de déviation de la RN 147 à Lussac-les-Châteaux et Mazerolles démarrent en ce début d'année 2023. On vous dit tout dans ce magazine. Le reportage de la semaine nous emmène quant à lui dans l'univers des albums jeunesse. On terminera bien sûr cette émission par votre agenda. C'est Vivre en Vienne, merci d'être à l'écoute. Comme chaque semaine, on ouvre ce magazine par une rencontre, cette fois dans le studio de Radio Pulsar. Et aujourd'hui, notre invité, c'est le sous-préfet de Montmorillon, Benoît Birski. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement des travaux de la route nationale 147. En gros, la déviation de Lussac-les-Châteaux et Mazerolles. Alors, c'est un dossier important pour le département et qui a pris un petit peu du temps, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est ce qu'on dit. Moi, je suis arrivé en 2020, mais apparemment, le dossier avait commencé. On en parlait en tout cas un peu avant mon arrivée. C'est important pour le département, c'est important pour la Haute-Vienne également, puisqu'on est sur l'axe entre Poitiers et Limoges, et il était indispensable de moderniser et de sécuriser cet axe entre Poitiers et Limoges.
Quelles sont les difficultés aujourd'hui rencontrées sur cet axe ?
Alors, ce qui a expliqué effectivement en particulier les retards des travaux, c'est qu'on est sur un terrain assez particulier du point de vue des sols. Déjà, on va le tracé de la future déviation emprunte plusieurs carrières avec des sols qui n'ont pas la stabilité nécessaire, ce qui a entraîné des études supplémentaires et un coût supplémentaire aussi. On traverse aussi la vallée de la Vienne, des sites extrêmement riches sur le plan archéologique qui ont supposé de phaser le chantier et de l'organiser un peu différemment de la manière dont on procède d'habitude. Pour ne pas perdre de temps, il a été décidé, comme on sait à peu près, les zones qui sont les plus riches du point de vue archéologique, et notamment le passage de la Vienne, il a été décidé de commencer le chantier à plusieurs points. Comme ça, si les fouilles archéologiques révèlent effectivement et supposent des fouilles assez longues, on ne perdra pas de temps et on avancera sur d'autres emplacements du chantier.
Parce qu'aujourd'hui, cette route est particulièrement compliquée et dangereuse. Hein. Elle a été identifiée comme une route des plus dangereuses entre Poitiers et Limoges. Hein.
Absolument. Ce qui était ressorti de la concertation qui avait été lancée il y a quelques mois sur le projet d'autoroute, il y avait un consensus qui était établi au moins sur ce fait qu'il fallait absolument sécuriser. On est aussi sur des questions de qualité de vie à Lussac. Hein. J'y étais encore vendredi. Le nombre de poids lourds est quand même relativement impressionnant. Il traverse il coupe cette petite ville en deux et il était vraiment indispensable de faire quelque chose.
Alors, ce qui manquait, c'était l'arrêté d'autorisation environnementale. Donc ça a été signé mi-décembre. C'est vrai que la question environnementale sur tout projet routier, voire autoroutier, on pourra y revenir, c'est essentiel aujourd'hui.
Absolument. Tout type de projet de cette envergure, maintenant, passe par cette autorisation environnementale qui est délivrée par le préfet après une procédure, une instruction extrêmement longue. Ce sont des études sur au moins une année, parfois plusieurs années, sur la faune et la flore pour s'assurer que toutes les contraintes et l'impact du projet va pouvoir être soit évité, soit réduit, soit compensé. C'est les trois grands principes qui guident l'action de l'État en la matière. Donc en l'espèce, concrètement, l'État, depuis plusieurs années maintenant, a commencé à acquérir des terres qui vont permettre, 84 hectares je crois, qui vont permettre de mettre en place ces compensations. Concrètement, on va être obligé de couper des arbres, et bien ces arbres vont être replantés sur d'autres sites.
Alors concrètement, le projet, en quoi il va consister ? C'est juste, entre guillemets, une déviation, hein, on n'en est pas sur réaménager toute la route Poitiers-Limoges, mais c'est quand même sur 8 km. Hein.
Absolument. C'est quand même un verrou majeur sur la RN 147 qui va sauter. Déviation, mais déviation de 8 km effectivement, avec 3 ouvrages d'art, 3 viaducs, dont le principal va enjamber la Vienne. Ça sera le plus important ouvrage d'art sur la Vienne à ce jour. Plusieurs ronds-points, évidemment, plusieurs restitutions de passages pour les routes qui sont coupées. C'est un investissement de 143 millions d'euros.
Qui est financé par qui ?
Alors, sur cette route d'État, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est le département de la Vienne qui est le premier financeur avec 53,2 millions d'euros, suivi d'assez près par l'État à 50,2 millions d'euros et la région complète, la région Nouvelle-Aquitaine, avec 39,6 millions d'euros. Et il faut encore une fois vraiment saluer l'effort qui a été fait par le conseil départemental sur cette opération pour lui permettre de voir le jour.
Et quel est le calendrier envisagé pour cette route aujourd'hui, maintenant que ça démarre ?
Alors ça y est, effectivement, les premiers travaux démarrent. Il faut quand même rappeler qu'on n'a pas pris de retard. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, ces autorisations, ces procédures, on y travaille depuis des années. C'est les acquisitions foncières aussi qui ont commencé depuis plusieurs mois maintenant. Ce sont des études qui ont commencé dès 2017. Toute cette phase un peu invisible doit être valorisée quand même. Mais c'est effectivement agréable, là on entre dans le concret, on va voir les premiers coups de pioche, le déboisement, l'archéologie, la phase archéologique qui va se mettre en place. On va matérialiser aussi, et ça a commencé à être fait, c'est ce qu'a fait le préfet avec le président du conseil départemental et la région il y a une dizaine de jours pour lancer symboliquement le chantier, c'est-à-dire il a planté un de ses piquets qui va pouvoir permettre de visualiser le tracé de la déviation. Donc ces travaux commencent cette année et on va s'étaler sur 4 ans jusqu'en 2026. L'ouverture et la mise en service est prévue en 2026.
Donc ce sera deux fois une voie, hein. Ça ne va pas être plus large, sauf à certains endroits, il y aura des créneaux de dépassement, c'est ça ?
Absolument, c'est deux fois une voie avec deux créneaux de dépassement d'un kilomètre, 250 je crois, chacun dans un sens et dans l'autre. La configuration du terrain ne permettait pas d'aller sur une deux voies, sauf à renchérir considérablement le coût de cette opération qui est déjà très onéreuse.
Quels seront un petit peu les impacts potentiels sur les automobilistes pendant la durée des travaux ?
Eh bien, il devrait être finalement assez faible puisque la RN 147 reste la RN 147 traversant Lussac tant que la déviation n'est pas créée. Et donc, mis à part des déviations provisoires sur les axes secondaires qui traversent Lussac au fur et à mesure des travaux, la RN 147 ne sera pas coupée du début à la fin des travaux. Donc, peu d'impact a priori pour les automobilistes.
Alors qu'ils préparent de nouveaux ouvrages pour les petits, Luc Turlan et Véronique Hermouet ouvrent les portes de leur atelier chauvinois à Amaury-Pérard.
Véronique Hermouet et Luc Turlan, auteurs et illustrateurs de Chauvigny, préparent de nombreuses sorties pour 2023. Si Luc Turlan et sa série d'albums jeunesse Les Amis de la Ferme ne sont plus à présenter, c'est en duo avec Véronique Hermouet que se prépare une toute nouvelle aventure. Il nous accueille à cette occasion et nous raconte le processus de création d'une bande dessinée.
C'est l'idée d'abord, c'est le thème général. Après, il va falloir arriver à décortiquer ça de façon à ce que ça tienne dans un album qui fait un certain nombre de pages, hein. On a 32 pages, il ne faut pas qu'on dépasse. Donc après, il va y avoir une écriture. Alors l'écriture, on commence par poser un gros tas comme ça, puis après on coupe en tranches, en disant voilà, ça va parler de ça, de ça, de ça, et puis tout ça, on essaye de le répartir dans les pages, de manière à ce que ça finisse pas trop vite, qu'on n'arrive pas 4 pages avant la fin en n'ayant plus rien à dire, et qu'on n'arrive pas non plus dans la dernière page en ayant encore trop de choses à dire. Et quand tout est prêt, on peut commencer à dessiner. On sait qu'à telle page, il va se passer ça. C'est pas encore écrit.
Là, par exemple, l'histoire, moi, avec la vache, le renard et le lynx, tu as fait le découpage, l'histoire n'est pas totalement écrite. Mais je sais, par contre, que sur cette double page, voilà à peu près ce qui va apparaître.
Voilà ce qu'il y a à dessiner.
Donc moi, j'ai déjà commencé à travailler que toi, tu n'as pas fini.
Moi, j'ai pas terminé le texte.
L'histoire, elle n'est pas terminée.
Et on dessine et on écrit en parallèle. Et quand tout est terminé, on relit tout et quelquefois, on réécrit des choses. Ça, c'est jusqu'à la fin.
Donc c'est encore aussi des croquis, puisqu'effectivement, si je mettais en couleur et qu'il y a des choses importantes qui sont rectifiées...
En tout cas, il y a toujours un travail complémentaire entre le dessin qui complète l'histoire, l'histoire qui complète le dessin...
Voilà, on essaie de ne pas être redondant. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre dans le texte « c'est l'histoire d'une vache qui se promène dans des champs verts avec un ciel bleu », puisque de toute façon, elle va dessiner, Véro, elle va dessiner, et on le verra. Donc je ne décris pas... Je peux parler de l'odeur. Je veux dire, par exemple, que il y avait une bonne odeur de foin coupé.
On sait qu'il y a... Là, faut pas que j'oublie de dessiner du foin.
Voilà.
Ça reste important.
Un travail de concert qui se déroule dans l'intimité de leur atelier, lieu de création où, au milieu des crayons, encre et appareils numériques, leurs univers prennent forme.
C'est un peu notre antre dans laquelle on bosse, on bricole, on fait, tu vois, plein de trucs avec des lampes partout.
Parce que du coup, on a deux méthodes de travail différentes.
Exactement.
Une méthode plus papier, une méthode plus tablette.
Alors, les crayonnés, je continue toujours sur mon carnet de croquis. Parce qu'il y a ce côté, le toucher du papier, le gratter du papier.
C'est un besoin qui a fait évoluer vers le numérique.
Alors c'est un gain de temps, parce que là on a sur la tablette, on a les outils qui sont numériques, qui peuvent être en aquarelle, on a de la gouache, on a de l'acrylique, on a tout sur le même stylet en plastique. On peut changer les couleurs comme on veut, parce que tout d'un coup on trouve que le contraste il n'est pas très sympa, donc on peut changer, on peut mettre... On dessine les personnages séparément du décor, hop, on peut le déplacer dans le décor, qu'on ne peut pas faire sur une planche originale.
Sur l'ordinateur présent dans la pièce, la maquette, encore en création, de leur prochain album en duo.
Et là, c'est le bouquin, mais il n'y a qu'un dessin.
Pour l'instant.
Et le texte n'est pas fait, tu vois, il y a juste... voilà.
Les petites annotations qui me servent, moi, à avancer.
Elle sait ce qu'il va falloir faire.
Voilà, c'est ça.
Véro va faire ses dessins, je vais faire le texte au fur et à mesure, ça va s'affiner, etc., etc.
Une fois qu'après les maquettes sont montées, ça part à l'éditeur qui va mettre en marche l'impression. Et
c'est ça, voilà. Il va faire d'abord une étape de correction et ensuite le maquettiste lui reprend mon travail. Il met une pagination, il rajoute les mentions légales hein, que je n'ai pas, l'ISBN, des trucs, etc. Puis c'est envoyé chez l'imprimeur et quand ça revient, on l'ouvre et on se dit pourvu que les couleurs soient respectées, pourvu que ce soit comme je l'ai voulu. Ça, faut aussi apprendre à tourner la page. Quand quelque chose...
Pour suivre les créations de Véronique Armouet et Luc Turlan, rendez-vous sur leur page Facebook respective, ainsi que sur celle de leur lieu d'exposition Le Petit Chouka de Chauvigny. De nouveaux ouvrages sont à prévoir pour ce premier semestre 2023.
On finit par vos idées sorties, sélectionnées par Style FM pour les vacances scolaires.
En ce moment et jusqu'au dimanche 26 février dans le parc Saint-Nicolas à Saint-Benoît, c'est le grand retour du cirque Claudio Zavatta après 3 ans d'absence. Leur nouveau spectacle intitulé Sensationnel, c'est 2 heures de show avec des artistes venus du monde entier. En exclusivité, venez vibrer avec les motards de l'extrême lancés à toute vitesse dans le globe de la mort. Sensation garantie avec les funambules, la roue infernale ou les rollers acrobatiques. Du rire avec le célèbre clown portugais David Mariani. Un grand cirque pour toute la famille avec des spectacles tous les jours jusqu'au 26 février. À partir du samedi 11 février et jusqu'au dimanche 14 mai prochain, en attendant l'orage. Emma Pinotto et Pierre Richard, deux artistes tout juste diplômés de l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême, Poitiers, exposent le fruit de 5 mois de résidence au confort moderne. Venez découvrir l'univers artistique de ces deux jeunes créateurs. Rendez-vous donc au confort moderne, rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. Plus d'infos sur www.confort-moderne.fr. Le dimanche 12 février, Escape Game à Jancey, mystère dans la tour du Moulin. Pourrez-vous résoudre les énigmes pour ressortir du château de Jancey? Vous serez par équipe de 5 personnes maximum et vous aurez 45 minutes pour retrouver le 21e siècle. Une personne majeure sera demandée par équipe pour des questions de sécurité. 5 euros par personne, rendez-vous entre 10h et 17h. Le vendredi 17 février, entre 18h30 et 21h30, rendez-vous à Coué pour le bien-être de votre corps et de votre esprit. Un moment pour entretenir votre corps et apaiser votre esprit autour de la méditation, de la méthode Pilates et de Gasquet, des étirements, de la relaxation ou encore de la cohérence cardiaque. Des ateliers ouverts à tous à partir de 16 ans. C'est sur inscription auprès de Marie par mail marie.bajoux@gmail.com. Attention. Le nombre de places est limité à 10 personnes.
Vivre en Vienne se termine. Merci de nous avoir suivis. On revient dans 15 jours pour de nouvelles infos locales. Passez une très bonne journée à l'écoute de vos radios associatives.
C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département de la Vienne.